Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes cette semaine dans la paracha de Korach. Une paracha très particulière. Une paracha de révolte. Une paracha très dure. On ne trouve pas... Il y a de temps en temps des moments où les gens ne sont pas d'accord. La communauté se râle, mais à tel point, c'est la paracha de révolte. Alors, en quelques mots, il y avait un monsieur qui s'appelait Korach. C'était pas n'importe qui, c'était un homme de très très haut niveau, à tout niveau, matériel comme spirituel. Il y a beaucoup de façons de voir les choses. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La façon classique, quand il y a des disputes, c'est très souvent lié avec l'ego de la personne. Mais on trouve ici aussi qu'il y a une notion, c'est plutôt une idée idéologique. L'idéologie, par contre, c'est quelque chose de raisonnable, de tolérable. On peut être n'est pas d'accord. Mais là, justement, cette révolte qui n'a pas duré très longtemps, elle a duré très peu de temps, même c'est possible qu'une journée, mais ça faisait beaucoup de dégâts. Et donc, en quelques mots, cette paracha nous raconte comment Korach, qui était d'ailleurs le cousin germain de Moshe, il n'était pas d'accord avec Moshe. On sait que dans le système juif, ce qui était raconté dans les dernières parashiot avant notre parasha Korach, il y a toute une organisation. Déjà, il y a les 12 tribus et le 13e. En fait, le 13e, ça veut dire celle de Lévi qui est à part. On le trouve à part plusieurs fois depuis le début de ce 4e livre de la Torah. Il est à part, carrément à part. C'est pas seulement qu'il est à part, et c'est tout à fait un autre système. Mais d'une façon générale, on considère que tous les autres 12 tribus, c'est plutôt des gens, je ne veux pas utiliser le mot laïque, ce n'est pas vrai, mais plutôt les notions, les gens qui s'occupent de... Ils sont plus proches de la matérialité, c'est qu'ils sont plus proches des profanes. Par contre, le rôle des 13e tribus, qui d'ailleurs, il est à part, il n'est même pas un 13e ici. Ailleurs, on l'appelle le 13e. Ici, il y a 12 et il y a un autre. Et donc, celle de Lévi, il est concentré pour les choses spirituelles. Parmi eux, il y a les Kohen, qui sont, si on peut dire, très très spirituels. En tout cas, ils ont des rôles très très spirituels. Et les Lévi, que c'est quelque part un intermédiaire entre les deux, comme la Torah nous raconte. Donc, Korach était parmi les Lévi'im, il était parmi les Kohanim. Kohanim, c'était, donc le Kohen était le frère de Moshe Aaron et ses enfants. Pour le moment, on avait ici deux enfants. Il y a deux qui sont morts. Donc il reste deux enfants. Et les petits-enfants, on ne compte pas encore. On le compte après. C'est une autre affaire. Donc le Kohen, c'est le descendant d'Aaron. Par contre, les autres des tribus de Lévi, ils sont Lévi quelque part en intermédiaire. Ils sont spirituels, ils ont des rôles spirituels. Ils ont le rôle de guides spirituels aussi. Mais ils ne sont pas au même niveau que les Kohen. En tout cas, Korach, il n'est pas d'accord. Il veut montrer que Moshe, il a inventé. Il a pris son frère. Ça aussi, ce n'est pas marqué clairement dans la Torah. C'est comme ça qu'on explique. Donc, il n'est pas d'accord. Mais l'idée de Korach, c'est plutôt, on est tous pareils, il ne faut pas faire de différence dans la communauté. Alors, encore une fois, dans ce même paracha, il y a plusieurs visions, mais ça, c'est la vision générale. Et ce qu'il a marqué clairement, on est tous pareils, il ne faut pas faire de différence. De temps en temps, on parle de cette idée de différence, d'être pareil, l'idée de... on est tous pareils. L'idée de égalité. En tout cas, dans la Torah, on ne trouve pas l'idée d'égalité. Si, pour certaines choses, si, mais pour certaines choses, non, on est différent, on est tellement différent que la Torah, elle dit que là, il ne doit pas rentrer dans l'affaire de l'autre. Là, il ne doit pas travailler dans le domaine de l'autre et on les considère comme quelque chose de très grave. Pour revenir à notre sujet, Korach, il n'est pas d'accord, mais ce n'est pas seulement qu'il n'est pas d'accord parce qu'il n'est pas d'accord, il essaye de montrer des preuves halachiques, donc halacha, ça veut dire de la loi qui dit telle et telle chose. Donc lui, qu'il était un grand érudit, un homme extrêmement intelligent, donc il voulait montrer que Moshe, par d'autres choses de la Torah, que Moshe, il n'est pas d'accord. Il n'a pas raison, il n'a pas raison. Ça, c'est en quelques mots. Ensuite, alors ça s'est devenu une révolte, puisqu'il a dit des choses logiques, il a entraîné avec lui beaucoup de monde, et la révolte était apprise c'était très grave, la révolte tellement, et finalement ça terminait mal, il y avait des morts, Korach y compris mort, qui était avalé dans la terre, comme il le marquait, lui, quelque part les gens qui étaient autour de lui, et les autres qui étaient brûlés, une histoire dramatique, qu'il faut comprendre tous les détails, mais en tout cas, dans notre parasha, si on résume, il y a la révolte, il y a le désaccord, il y a la révolte, il y a des disputes, et il y a un résultat très mauvais. Ensuite, à la suite de la parasha, il y a quelques choses qui montrent que Moshe il a raison, et dans le domaine d'Aaron, c'est Aaron qui doit être le seul qui est le grand prêtre, et pas les autres. Et Dieu il a demandé que chacun il amène, chacun des 12 tribus, donc chacun des 12 chefs de tribus, il amène son bâton. À l'époque, il y avait les gens, ils ont marché avec leur bâton, surtout que certainement que dans la route, il faudrait utiliser les bâtons. Donc chacun, il a posé son bâton dans le sein des saints. Et Hachem, il dit, Dieu il dit que celui qui il va choisir, c'est son bâton qui va fleurir. Effectivement, le lendemain, on trouve le bâton d'Aaron qui était fleuri, avec les détails qu'il a marqué là-bas. Et ensuite, donc, alors finalement, dans cette paracha, il y avait une confirmation, une affirmation, une confirmation, que c'est bien Aaron qui doit être le grand chef. En fait, le grand chef, ça veut dire le grand prêtre. C'est bien que ce que Moshe disait jusqu'à là, qu'il y a des différences dans la communauté, est bien beau, est bien vrai. Et ensuite, la Torah, elle confirme les différences. Et là, il y a les lois de Cohen. Ça veut dire que Israël, ça veut dire la communauté d'Israël, ils sont eux qui travaillent la terre. C'est eux qui ont des fruits, c'est eux qui ont des légumes, c'est eux qui ont, ils s'occupent de la matérialité. Et c'est eux qui doivent nourrir les Lévis et les Cohen. Il y a 24 cadeaux qu'ils doivent donner, mais en tout cas c'est des prélèvements qu'il faut donner. Alors finalement la place de Cohen était renforcée après cette dispute. Donc alors la place d'Aaron, les différences que Moshe il a fait, mais il a fait pas de son nom, au nom de Dieu, qu'on est différent, chacun il a son rôle, était confirmée dans notre parasha. Donc, dans le domaine que Hachem a montré clairement par un miracle, qu'il a choisi Aaron pour l'histoire des bâtons, et qu'Hachem a montré qu'il a donné des ordres nouvelles qu'on ne savait pas jusqu'à là, en tout cas pas autant de détails, qu'il faut donner des prélèvements de ce qu'on possède, nous, l'Israël, et de ce qu'on possède au niveau de la terre. Parce qu'à l'époque, le monde, chacun il était agricole plutôt. Donc, alors, il faut donner une partie au Lévi, et ensuite en Cohen, ou pas ensuite. En fait, il y a des différents dons qu'on donne, comme on a dit tout à l'heure, les 24 dons. Maintenant, ça veut dire, il y a dans les Talmud, il y a marqué comme ça, que celui qui garde les disputes, il fait une transgresse, une mitzvah, une loi négative. Ça veut dire, on sait que dans la Torah, il y a des mitzvot, des lois positives et négatives. Il y a des mitzvot que la Torah nous dit, des lois que la Torah nous dit, fais-le, fais ça, fais ci. Et il y a des mitzvot, donc des lois que la Torah nous dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il y a les, donc il y a 613, il y a 248 positives et 365 négatives. 365 d'ailleurs, c'est comme le jour de l'année, c'est pas par hasard. En tout cas, pour revenir, alors, quelles sont les 613 lois? Il y a des différents commentaires qui expliquent. On est d'accord sur la majorité, mais il y a quelques-unes que là, il dit non, ça c'est pas une mitzvah positive, ça c'est pas une mitzvah, ça c'est un détail. Donc il faut le rentrer comme ça, il faut le rentrer comme ça, mais ça c'est clair qu'il y a 613 lois. Parmi les lois qu'il y a des discussions, est-ce que c'est qu'on la considère comme une mitzvah à part ou non? Alors c'est la mitzvah qui est marquée dans le Talmud, que celui qui garde les disputes, il fait une mitzvah, donc il transgresse une loi négative, parce qu'il est marqué dans la Torah, qu'il n'y aura pas comme Korach. Ça veut dire, après l'histoire de Korach, il y avait certains événements qui se sont passés pour qu'il n'y aura plus de Korach. Il n'y aura plus quelqu'un comme Korach. Ça va être clair, ça va être affiché. L'histoire, à partir de là, les gens ils vont se rappeler. Il y avait un Korach, il a causé un problème, il a fait des disputes, il a chauffé l'atmosphère d'une façon extraordinaire. Et donc les choses, comme la Torah nous raconte, les éléments qui restaient de cette histoire, ils vont être affichés sur l'autel. Affichés, c'est pas les mots, mais en tout cas, et pour que les gens ils se rappellent et qu'il n'y aura plus comme Korach. Mais il y a certains qui pensent que c'est pas seulement pour que, c'est une mitzvah négative, donc il faut pas qu'il y aura comme Korach. Qu'est-ce que Korach a fait du mal? Alors on ne se base pas sur le fait qu'il n'était pas d'accord ou il a fait les disputes. On se base sur le fait qu'il a gardé les disputes. Ça veut dire que quelque part on peut dire qu'on peut tolérer les disputes. Pas tout à fait, mais quelque part on peut comprendre qu'il y a des disputes. On peut tolérer, bien sûr, les différentes opinions, je ne suis pas d'accord avec toi. Non seulement qu'on peut tolérer ça, c'est plus que tolérer, c'est obligatoire. On sait que dans la Torah, on a parlé il y a quelques semaines de ça. La Torah, elle veut que chacun, il s'approfondit dans le sujet. Et lorsqu'on s'approfondit, naturellement, comme dans chaque chose, on n'est pas d'accord. Et donc si je ne fais pas, si je compte sur les autres, il y a d'ailleurs une loi très intéressante qu'il y a, il y a des tribunaux qui doivent juger sur des sujets graves ou moins graves. Alors sur les sujets graves, là il y a des lois différentes que des sujets moins graves. Parmi les lois, c'est que lorsqu'on pose la question, par exemple on a un tribunal de 71 Sanhedrin, donc 71 juges. Lorsqu'on demande les opinions des uns et des autres, on commence par les petits, et ensuite on va vers les grands. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les petits, en fait, quand même, il y a une différence dans la connaissance, dans la compréhension. Alors on a peur que celui qui est plus petit, il va être influencé par l'opinion des plus grands. Donc alors à ce moment-là, il va pas dire ce qu'il pense vraiment. Soit il va pas dire, soit il va changer puisqu'il va être influencé par ce que l'autre il pense. Et c'est pas comme ça qu'il faut. Il faut que chacun il dise vraiment ce qu'il pense. C'est comme ça qu'on fait, on construit la justice. Des différentes opinions, des différentes opinions qui sont parfois carrément opposées. À l'extrémité, là il pense des extrêmes droite et l'autre il pense de l'extrême gauche, et pourtant de tout ça on crée quelque chose ensemble. Il y a des choses qu'il faut expliquer ici, mais je rentre pas dans ces détails. Alors quelque part, les différences aussi dans ces notions, ça élargit la compréhension, mais finalement il faut décider. Ça veut dire qu'on peut discuter, prendre le temps de discuter. À un moment donné, dans tous les domaines, il faut prendre une décision. On fait, on ne fait pas. Comment on fait? Mais la décision, elle va être influencée par les différentes opinions. On a beaucoup d'exemples dans la vie où, finalement, il y a des grands sages, mais ce n'est pas forcément les grands sages qui ont raison. Les grands sages, ils ont besoin de voir l'opinion des autres. Il y a un sage talmudique qui s'appelait Rabbi Eliezer, il me semble, qui disait « J'ai appris beaucoup de mes maîtres, j'ai appris encore plus de mes amis, et mes des élèves, j'ai appris encore plus. » Normalement, les élèves, c'est des gens qu'il faut descendre, c'est baisser vers eux. Et parfois, ils n'arrivent pas à comprendre la logique des maîtres. Ils sont très, très loin de sa logique. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces gens? Normalement, j'apprends lorsque je monte. J'essaye de monter vers celui qui est plus intelligent que moi. Et là, j'apprends beaucoup de choses. Celui qui est égal à moi, mon ami, mes amis, là, j'apprends aussi. Parce que on sait que dans l'intelligence, dans la compréhension, il y a différentes manières de voir les choses. Mais si je me baisse pour quelqu'un qui n'est pas forcément intelligent, en fait, intelligent, ce n'est pas le mot, il n'est pas forcément érudit, il n'a pas encore développé son intelligence. Et donc, de lui, que j'apprends beaucoup plus, et c'est comme ça qu'il a dit, effectivement. Les enfants, ou bien les élèves, ils posent des questions. Parfois, des questions qu'on peut le considérer par des questions bêtes, mais justement, c'est ça qui aiguise les différentes visions. Qui parfois, ils sont forts, mais même les différentes visions fausses, parfois, et pas parfois, il développe la grande intelligence. Et après ça, lorsqu'on arrive à cette décision halakhique, ou bien dans n'importe quel domaine que ça ressemble à ça, alors à ce moment-là, la grande intelligence, le grand intelligence, celui qui est au sommet, il profite de l'intelligence des petits, même si qu'il ne change pas son opinion. Et parfois, il va changer son opinion parce qu'il y a parfois un petit détail qu'un petit sage a compris, que ça change tous les dons. Et donc, à ce moment-là, on voit très bien que parfois, on a des détails qui nous changent les dons. On voit, à partir de là, on se dit, ah, si c'est comme ça, alors il faut que je réfléchisse. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que dans le domaine de l'intelligence, de la justice, toute opinion compte, même les opinions des petits et des gens qui sont carrément peut-être opposés à mes opinions, mais ça va me servir à comprendre mieux et peut-être je vais garder mon opinion, mais à ce moment-là, ça va être beaucoup plus large. Mais en tout cas, c'est comme ça que les différences, c'est ça qui crée une richesse, ce qu'on le sait. Mais après, quand même, il faut prendre une décision. Après toutes ces opinions, il faut prendre une décision. À ce moment-là, il y a une décision, il n'y a pas plusieurs décisions. Cette décision est basée sur différentes opinions, mais il y a une décision. Alors là aussi, dans l'histoire, on a dit tout à l'heure que la Torah, ce n'est pas qu'elle ne nous interdit pas de ne pas être d'accord. Oui, la Torah ne nous interdit pas de ne pas être d'accord. Il faut que chacun aiguise ses opinions. Mais quand on arrive à la décision, il doit obéir aux autres. En fait, si c'est la majorité, il y a d'autres règles. Mais ce qui est interdit, donc, de garder cette différence. À un moment donné, il faut abandonner cette différence comme on voit que la majorité, ils ont raison, ou bien pour d'autres choses, il faut pas que les différences restent. Alors, dans certains domaines, le contraire, si ce n'est pas lié avec le public, une décision en commun, je peux garder mon opinion. Je n'ai pas besoin de m'annuler, mais quand il s'agit d'une décision pratique, finalement, qu'est-ce que j'ai fait avec toutes ces opinions? Il faut trancher. Et il y a les règles comment on tranche. Et si je ne suis pas d'accord de tranché comme les autres, là, c'est un problème parce que je garde les différences. Donc, alors, c'est ça que certains pensent que c'est parmi les 613 lois, celui qui garde les, pas les différences, c'est plutôt les disputes. On a le droit de disputer, fait d'une certaine manière, mais à un moment donné, il faut dire stop. Maintenant, on passe vers quelque chose d'autre. Alors, dans l'histoire de Korach, on voit que Moshe essaie de tout prix de trouver une solution, mais finalement, ça tourne mal. Comme on a dit, dès là, on apprend qu'il ne faut pas garder les différences. On a le droit de dire nos opinions, mais on n'a pas le droit, dans certains domaines où ça va, il y a une décision de la majorité, par exemple, on n'a pas le droit de garder notre dispute. Il y a encore des choses à dire, mais maintenant encore quelque chose. Dans certains domaines, dans la Torah, il y a Moshe. Moshe, c'était la personnalité qui était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, et le monde en général, mais entre le peuple juif, celui qui, la Torah est passée par lui. Alors, d'une part, dans la Torah, comme on a dit tout à l'heure, chacun il donne son grain de sel, chacun il doit réfléchir et dire ce qu'il pense, mais à un moment donné, comme on a dit, il y a une décision qui est faite. Dans notre cas, c'est Moshe qui montre la directive avant ou après que le peuple participe chacun à son niveau. À partir de là, on va arriver à une autre idée, puisque aujourd'hui, oui, je vais rajouter encore quelque chose, que dans la Chassidoute, c'est intéressant, la semaine dernière, on a parlé de la même idée, que partout, on critique Korach, comment il était mauvais, etc. Dans la Chassidoute, autour de la Chassidoute, dans l'idée du Rabbi, le contraire, on montre comment Korach était tellement de raison dans ses idées. Ça veut dire qu'il avait raison dans certains domaines, mais les choses qu'il a dit, c'est vrai dans certains cas, c'est vrai dans certaines situations, et même c'est très bien, alors je ne rentre pas dans les détails, mais dans notre cadre, c'est destructif. Alors, voir ce que Korach il veut faire, c'est bien, mais pas ici, et pas pour le moment. Là, on a un ordre, là, on a un système, il faut suivre le système. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, et là, je continue un petit peu plus loin, puisqu'on est aujourd'hui, là où je parle, le jeudi 18 juin, que c'est le Gimel Tammuz, le 3 Tammuz. Le 3 Tammuz, c'est une date très importante depuis très très longtemps, mais depuis 22 ans, c'est une date qui marque le départ, en tout cas physique, visible, du Rabbi. Alors, on va parler un petit peu de ce que c'est un rabbi. Vous voyez certainement, certaines poses des questions. Pourquoi on donne une importance au rabbi jusqu'à aujourd'hui? Et c'est notre rabbi. Il n'y a pas un autre rabbi. Il y a des bonnes personnes, il y a des tzadikim peut-être, il y a des gens de très haut niveau. Mais un rabbi, c'est notre rabbi. Et on dit carrément le rabbi. Et il faut expliquer ça, mais je vais essayer de résumer en quelques mots. Comme Moshe Rabbeinu, il a marqué qu'il y avait Moshe, mais chaque génération, il y a quelqu'un comme Moshe, parfois d'une façon visible, parfois d'une façon cachée, parce que la communauté juive n'était pas ensemble tout le temps, mais il y avait quand même ceux qui montraient la ligne directive, comment il faut faire au niveau... Il y a dans certains domaines qu'on n'a pas besoin, entre guillemets, parce qu'on a toujours besoin d'un guide. Il y a les directives de la Torah, et c'est tout. Mais il y a beaucoup de domaines, soit personnels, soit général, que là, c'est clair qu'il faut chercher où se trouve la vérité. Donc, alors, le rabbi, lorsqu'il est devenu rabbi, et il disait comme ça. Et on sait qu'un rabbi, c'est en même temps un prophète. On a vu chacun, il porte avec lui des histoires personnelles ou au général, comment le rabbi l'a guidé dans des choses personnelles au général. On va donner quelques exemples rapides dans les différentes guerres, que ça, c'est pas des choses personnelles, c'est des choses générales. Comment le rabbi il a réagi comme tout le monde réagit d'une autre manière. Il y a deux vidéos, comment au moment de la guerre de six jours, que la direction israélienne était carrément à bas, carrément, en fait pas à bas, ça veut dire le moral était très bas avant. Et on n'a pas pensé que ça va être une réussite, et le rabbi il a dit qu'il y aura une réussite de différentes choses. Il n'a pas laissé les élèves étrangères Chabad de quitter Israël. Il a dit vous allez rester, il y aura des miracles. C'est une responsabilité de dire ça. Et lui, il y avait des gens qui essayaient de dire peut-être rabbi vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Là aussi, il y a beaucoup d'histoires. Le rabbi dit, je sais exactement ce qui se passe et je demande à mes personnes de rester là-bas. Ou bien la guerre de Golfe, par exemple, que le rabbi il a dit qu'il n'y aura pas la terre d'Israël. En tout cas, à ce moment, c'est l'endroit le plus sûr. Et on a vu qu'il y avait des SCAD, ou de différentes manières qu'on l'appelle. Et les gens, ils ont sorti de ces attaques, ça est sauf, même si que les bâtiments sont tombés, comme montrent les photos. Donc on a des visions prophétiques. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est que chaque génération, en général, le monde il a un but. On a un but général dans ce monde. C'est vrai que chacun il travaille à sa façon, quelque part. Il a des rôles à part, mais on a un rôle général. Et comment savoir quel est notre rôle, quel est le but de notre génération? Et le rabbi, il nous a montré le schéma, quel est le but de notre génération, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, d'une façon générale. Toujours est-il que chacun, quand même, il doit réfléchir, il doit faire son travail. Alors, lorsque le rabbi est devenu rabbi, qu'il ne voulait pas pendant un an, il a refusé d'être rabbi, mais finalement, il est devenu rabbi. Après, le discours qui s'appelle Mahamar, que c'est le discours qui montrait qu'il est rabbi, en tout cas, il a commencé un discours en disant qu'en général, chez Chabad, Chabad c'est notre mouvement, que finalement c'est pas un petit mouvement, c'est un mouvement qui guide le peuple d'Israël. Alors, il dit que chez Chabad, on disait toujours qu'on aime le travail personnel. Ça veut dire qu'il ne faut pas compter sur l'un et sur l'autre. Chacun fait un travail personnel. On sait que il y a, ce n'est pas été dit à ce moment, mais il y a cette idée qui est marquée dans un livre qui s'appelle Ayomion, qui était écrit par le rabbi, qui l'a marqué comme ça. Que beau, c'est lorsque je n'ai pas marqué le mot beau, quelque chose qui ressemble à ça. Beau, c'est que lorsqu'on donne la main à quelqu'un, on l'aide. Mais cher, c'est lorsqu'il fait tout seul. On sait très bien, on peut aider les gens, mais si on peut le mettre sur leurs pieds, qu'ils se débrouillent seuls, c'est encore ce qu'on souhaite. Là, au niveau spirituel, à tout niveau aussi, le but, le rabbi l'aide, mais il veut que le travail soit d'une façon personnelle, parce que c'est ça le judaïsme. Il faut travailler, il faut voir des résultats. Il ne faut pas attendre des miracles, même si de temps en temps il y a des miracles, mais on avance avec nos forces. Alors c'est ça un petit peu ce qui définit le rabbi de chaque génération. Un autre rabbi, c'est celui comme le premier Moshe. Il y a des différentes opinions, il y a des différentes visions, et on voit, et on a le droit, et le contraire, ça aide pour la ligne directive, mais c'est lui qui a montré. Et c'est lui qui monte jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de domaines qu'on suit, comme pour le domaine d'Israël. Il faut développer cette idée. L'Israël, la politique, elle doit être en Israël, etc., etc. Là, c'est les directives qu'on essaye de suivre aujourd'hui. C'est plutôt celle de Rabbi, plus que toutes les autres années, parce que finalement, les messages de Rabbi rentrent en Israël et rentre partout dans le monde, donne beaucoup de choses. Donc, alors, c'est ça un rabbi. Un rabbi, c'est pas encore un sage, c'est lui. En tout cas, c'est pas ça ce qui caractérise le rabbi, mais c'est parmi les choses qu'on peut dire que c'est lui qui est intermédiaire entre Dieu et nous. Et même aujourd'hui, quand on n'entend pas, mais on utilise ces paroles qu'il a dites qui sont encore valables et encore plus valables aujourd'hui qu'à l'époque. C'est très intéressant. Donc, le rabbi, il nous guide. On a un problème, on cherche dans la Torah de rabbi comment il faut réagir dans ce domaine. Il y a d'ailleurs quelques années avant, je ne veux pas utiliser les mots sans départ parce qu'il est beaucoup plus présent que toujours, mais il a autorisé ce qu'il n'a pas laissé avant, il a autorisé de publier ses lettres. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de milliers et de milliers de lettres il y a, mais ces lettres, ils touchent tous les problèmes de la vie. Et là, c'était publié en français encore une fois, avec un grand volume. Normalement, il y a 30 quelques volumes, mais là, je pense qu'ils ont choisi le meilleur. Le meilleur, ça veut dire le plus qui correspond plus à tout sujet. Mais en tout cas, le rabbi parle de tout sujet imaginable. Et comment on règle ces problèmes? Ça ne va pas dire que toujours il faut le suivre à la lettre, parce qu'il y a des cas qui sont différents que l'autre. Mais la vision, comment on regarde sur la vie, le rabbi nous a donné, parmi d'autres, le fait même que le rabbi il a changé, il est en train de changer le monde juif, et pas seulement. Mais c'est un sujet qu'il faut développer si Dieu veut, et surtout que le rabbi nous prépare à la venue de Mashiach. Que la venue de Mashiach, ce n'est pas un rêve pour les gens qui ne sont pas réalistes, c'est très réaliste, il y a des preuves. En fait, là aussi, c'est un sujet qu'il faut développer de temps en temps. Le monde va vers cette notion messianique, vers ce temps messianique, vers ce temps où il y aura, on va voir les choses beaucoup plus claires, on va voir la présence de Dieu dans ce monde. On va voir quel est notre rôle. On va plus être dans ces jungles qu'on comprend pas pourquoi et comment. C'est le monde de Mashiach qui va être là très prochainement. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.